Live. À l'occasion du jour de la sortie de son nouvel album, concert privé d'Assaf Avidane, rendez-vous lundi 28 janvier à 20h30 sur le Move. Le Move, une radio de Radio France.
France Inter, la voix est libre.
Et c'est l'heure sur France Inter de Daniel Mermet pour là-bas si j'y suis, c'est parti.
Christine Lagarde, c'est pas une prédatrice. Son prédécesseur, Dominique Strauss-Kahn, a été accusé, lui, de prédation uniquement par rapport à son comportement sexuel. C'est intéressant de constater que la société libérale n'utilise le vocable de prédateur qu'à l'endroit des seuls criminels sexuels. DSK n'est devenu un prédateur qu'à la suite de l'agression de Nafissatou Diallo. Tant que Christine Lagarde ne viole pas un garçon d'étage d'un hôtel new-yorkais, elle n'est pas considérée comme une prédatrice. L'austérité préconisée par les dirigeants du FMI n'est pas assimilable à de la prédation.
Salut Daniel, c'est Pierre de la société Ulysse. Je t'appelle pour te dire qu'on est 30 salariés motivés pour défendre nos emplois. L'État préfère polluer que recycler. Nous on recycle, on empêche de mettre tout le déchet industriel banal à polluer la terre. Et tout ce que nous répond l'État, c'est rentrer chez vous, plus rien à voir, voilà. Donc on est en face du ministère de l'écologie à Delphine Bateau, donc Montebourg est sourd, on voudrait que Bateau se mette au boulot. Merci de faire passer le message, Daniel.
Ouais, salut à tous, vendredi au Latitude à Tourette, derrière Intermarché, dans l'Est Varois, on reprend les repères à partir de 19h. On y parlera notamment de Notre-Dame-des-Landes et de l'idée de rejoindre la marche qui est en cours et qui arrivera là-bas début février. Et on parlera aussi de l'actualité locale, notamment avec la sortie du numéro 17 du nouveau journal, et puis aussi d'une idée qui fait son chemin d'une rencontre des repères qui se passera dans les Bouches-du-Rhône. Allez, on parlera de tout ça vendredi, 19h au Latitude à Tourette, derrière Intermarché. Ciao, vive, portez-vous bien.
Ouais, Daniel, j'ai eu un peu les boules au début de ton émission d'aujourd'hui là, sur la censure, enfin sur la chanson engagée contemporaine d'aujourd'hui. Que tu fasses l'impasse sur deux artistes d'aujourd'hui qui sont vraiment très engagés, Didier Brempas, voilà, ouais, ça c'est fait. Et puis quand même, Noir Désir, quoi qu'on en dise, voilà, dernier morceau du tout dernier album des Visages des Figures en 2001, L'Europe avec Brigitte Fontaine, que tu passes là en ce moment. Un morceau quand même qui dure 11 minutes, qui est extraordinaire, qui est très annonciateur. Oh putain, quel morceau. Et puis, oulala. Et puis c'est drôle en plus. Malheureusement drôle.
Bonjour, c'est Philippe de Pantin. Juste Daniel, t'as oublié de parler quand même. Je sais que tu peux pas parler de tout le monde, mais t'as oublié de parler quand même des Berruriers Noirs. Parce que les Berruriers Noirs, c'est pas une ou deux chansons ou trois ou dix qui ont été censurées, mais c'est bien l'ensemble du groupe qui a été censuré dans les débuts des années 80. À bientôt.
Mon souffle est saccadé en un mot commençant, je viens de regarder le grand détournement. L'air du soir est glacé, mais il est plein d'espoir. Du règne du marché, nous pouvons tout savoir. Cette bise savante soufflant sur nos esprits me laisse pantelante et presque au paradis, quand des économistes, tels notre grand Lordon, nous mettent sur la piste de la révolution. Des rouages de sa science, il nous livre le zeste, nous dévoile le sens, à nous de faire le reste, à nous, fils de rien, de bien alimenter, face à tout ce qui vient, la solidarité. Éteignons les écrans, ouvrons grand nos esprits, sachons serrer les rangs, face à l'ignominie. Ils nous croient oublieux, sachons leur rappeler que les règles du jeu peuvent vite changer. C'était Joanne de Strasbourg.
Boris Vian, la complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Aujourd'hui c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudu, viens m'embrasser. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixeur et du dindon pillot, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et de pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux et nous serons heureux.
Eh ben bravo, jolie interprétation de Vian, ça vous a plu ? Oui, hier, la désobéissance musicale, une heure de chanson française, désobéissante, ça a bien marché. Ben oui, effectivement, on n'a pas la prétention d'avoir passé toute la chanson actuelle ou récente subversive, contestatrice, etc. Mais donnez-lui des idées, envoyez, réclamez, inspirez. Et on en fera d'autres prochainement. Ah, aujourd'hui, vous avez peut-être repéré, c'est le deuxième anniversaire de la révolution en Égypte, 25 janvier. Et il y a quelques jours, c'était à Tunis, le 14 janvier, anniversaire du départ de Ben Ali. Et ben là-bas, si j'y suis, était là. Et c'est Anaëlle Verzo qui tenait le micro. Oui, oui, elle était dans la manif et on va aller faire un tour aujourd'hui à Tunis, Tunisie. Le réveil cabossé. J'ai pas dit le rêve, j'ai dit le réveil cabossé. Effectivement, ça a été un grand jour que cette révolution tunisienne qui a entraîné tout ce que nous savons. Peut-être que la France ne serait pas au Mali aujourd'hui sans cette révolution. Il y a tout un jeu d'enchaînement, d'entraînement et de conséquences. Là-dedans, il y a de l'irréversible, là, il y a de l'imprévisible. Il y a un processus. Bien évidemment que la révolution tunisienne ne pouvait pas être un seul jour et puis le lendemain, voilà, tout s'arrange, bien évidemment. C'est un processus dans lequel ce pays, ce peuple se trouve plongé, tout comme ses voisins, l'Égypte, etc. Il y a là-dedans quelque chose, évidemment, d'irréversible. Ben Ali est parti, la tyrannie avec lui, et puis il y a ce pays compliqué qui va vers la démocratie, mais à quoi ressemble cette démocratie? C'est quoi exactement la démocratie vue de Tunis, vue d'Égypte, du Caire ou d'Alexandrie? Des questions. Alors ces questions, on va retrouver ces questions au cours de cette heure qu'on va passer ce jour-là pour cet anniversaire, ce 14 janvier, en écho. Un anniversaire au 14 janvier 2011. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous les AMG. Ce soir, j'ai besoin de dire ma déception. Je vis dans un petit village dans le Jura. Nous avons la chance d'avoir une école en commun avec le village voisin. Cette école avec un grand E qui fédère, qui réunit, qui donne le goût d'apprendre, la soif de la découverte. Cette école, c'est la vie du village. Elle crée du lien social. Nous tous, parents, pensions en avoir fini avec l'ère Sarkozy et ses suppressions de classes purement comptables, faites à l'aveugle dans un souci d'économie. Eh bien non, Monsieur Hollande continue. Une classe devrait être supprimée à la rentrée prochaine. Donc, classe surchargée, fuite des enfants vers la ville et à terme, fermeture de l'école. Nous sommes dans une zone rurale excentrée, à 15 km de la première école. Nos routes l'hiver sont bien enneigées. On tape sans relâche sur les écoles rurales alors que nos villages sans elles sont voués à la désertification et à la mort. Je veux croire que l'école peut être gérée différemment d'une entreprise. Je veux croire qu'il est possible de maintenir une école dans un village pour le service rendu au public. Que là au moins, l'humain soit au centre du débat. Et que là au moins, on ne raisonne pas en termes de rentabilité.
Bonjour à tous. Grâce au podcast, je viens de réécouter l'émission du 1er janvier, Tierra et Libertad. Je ne sais pas pourquoi j'arrête d'écouter là-bas si j'y suis de temps en temps. Par contre, je sais bien pourquoi je recommence à écouter à chaque fois. Ça me file la pêche, c'est vraiment plein d'une belle énergie, plein d'espoir, et je trouve que ça donne une belle image de nous les humains.
Il va falloir y aller les gars, il y a peut-être qu'un ou deux survivants. Allez les spermatozoïdes, c'est la phase ovulatoire.
C'est qui Oumeya d'après toi?
Ça, c'est les groupes de foot, le plus grand parti de Tunisie.
Le plus grand parti, tu dis.
Zéro, zéro,
zéro, zéro. Alors là, il y a des militants de Narda qui font des signes avec leurs mains et qui font un zéro avec leurs doigts. En regardant passer les opposants.
Alors, ils disent condoléances, Ben Ali vous a laissé. C'est-à-dire que finalement, ils traitent les opposants de ancien régime de Ben Ali, quoi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Anaël Verzo. Tunisie, le réveil, cabossé.
Flight number 2, arriving from...
Là, on vient d'arriver sur l'avenue Bourguiba à Tunis. Et alors, il y a pas mal de monde éparpillé un peu partout. Et Narda dans un coin, les opposants de l'autre. Et on est avec Enda. Qui est là alors, Enda?
Il y a le parti Narda qui fait une manifestation culturelle. Et il y a des petites associations qui passent un petit peu comme ça, juste pour fêter le 14 janvier.
Et le 14 janvier, c'est-à-dire les 2 ans de la fuite de Ben Ali, les 2 ans de la révolution.
Voilà. Les gens ne sont pas forcément très contents de ce qui se passe parce que la situation économique est très difficile. Enfin, il y a de plus en plus de gens en chômage. La vie coûte de plus en plus cher. Et donc, on a du mal à s'en sortir économiquement. On apprend tous les jours qu'il y a des trafics d'armes, des camps d'entraînement de terroristes. Donc les gens sont un petit peu inquiets aussi pour leur sécurité. Et donc beaucoup ne sont pas du tout contents.
Sur notre droite, tu nous dis qu'il y a des représentants des Narda, c'est-à-dire le parti au pouvoir.
C'est un des 3 partis au pouvoir, oui. Mais Narda, c'est le parti majoritaire. Donc c'est un groupe d'hommes avec des gilets où il y a écrit comité d'organisation. Et donc, ils organisent la manifestation culturelle de Narda.
Qui est une manifestation, pour eux, qui est festive, en fait. Hein.
Oui, festive, hein, c'est de la musique.
Et là, on va aller voir.
Oui. Le peuple veut Narda encore. Ça, c'était pas les slogans de la révolution, loin de là, parce que Narda à l'époque n'était pas en Tunisie. C'est sur le même ton, mais les mots sont différents. C'est des versets du Coran.
Là, il y a quand même beaucoup de femmes, des enfants. Des femmes essentiellement voilées, mais pas que. Hein. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas voilées. Regarde là-bas. Là. Des jeunes femmes avec des boucles d'oreilles. Voilà, ici, c'est la célébration des Narda.
L'ivresse des possibles. L'ivresse des possibles, c'est le mot qu'on avait retenu il y a 2 ans devant cette révolution tunisienne que les médias avaient appelée la révolution de Jasmin, la révolution Facebook. Il y a eu tout un enthousiasme, une flambée et une bulle médiatique pour cette Tunisie. Et puis, rapidement, les médias sont partis sur autre chose en se détournant un petit peu de cette Tunisie, bien évidemment, que les lendemains ont tendance à déchanter. On aurait pu comprendre, et certains avaient compris à l'époque, que la Tunisie rentrait dans un... Après cette révolution, la Tunisie rentrait dans un processus. Dans un processus, disait-on, vers la démocratie. Ah, mais attention, vers la démocratie. Mais quelle démocratie ? On est quand même assez malin pour avoir compris qu'il y a démocratie et démocratie sur cette planète. Est-ce que les Tunisiens peuvent prendre pour modèle démocratique, les États-Unis d'Amérique ? Vue de Tunisie, cette démocratie-là, oui, bien sûr, formidable. Mais enfin, c'est au nom de cette démocratie que les États-Unis étaient en Irak. C'est au nom de cette démocratie que les États-Unis sont encore en Afghanistan. C'est au nom de cette démocratie que les États-Unis de manière permanente soutiennent Israël face à la question palestinienne. Donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un modèle rêvé. Alors il y a une autre forme de démocratie, la démocratie française. Ah, les Tunisiens nous connaissent bien, nous parlons la même langue et on se connaît bien, on est amis comme on le sait. Mais de là à faire de cette démocratie véritablement un modèle et un horizon, après tout, cette France avec sa mission civilisatrice, elle a un petit peu colonisé ces régions. Et puis plus récemment, Ben Ali avait pour soutien la gauche et la droite française qui nous expliquaient que oui, il aurait fallu un petit peu plus de liberté. Mais enfin, Ben Ali était le rempart aux terribles barbus et aux femmes opprimées. Alors que Ben Ali réprimait, enfermait, torturait son peuple. Alors c'est difficile de souhaiter, d'attendre que tous les Tunisiens nous prennent pour modèle. Alors d'autres démocraties, sans doute, on peut l'espérer. Il y a aussi quelque chose qui se passe en Tunisie. C'est une situation qui existait du temps de Ben Ali. C'est violentes et profondes inégalités dans ce pays, avec des régions, des quartiers même de Tunis qui sont très très pauvres et les gens souffrent beaucoup. Il y a un mot qu'on entend souvent dans le monde arabe, c'est le mot déshérité. Déshérité. Et un mot qui revient souvent, c'est humilier, l'humiliation. Faire très très attention à ces populations déshéritées et humiliées, parce que c'est là que le pire prend racine, s'engraisse et fleurit et menace ce qui pourrait être effectivement un horizon démocratique. La Tunisie est en marche, la Tunisie se cherche, on passe de l'ébullition à la désillusion, mais c'est la turbulence, mais c'est l'effervescence, possibles sont tous les possibles. Nous ne sommes rien, soyons tout. Vous connaissez ce vers fameux de l'international. C'est ce que les Tunisiens, les Égyptiens et d'autres ont vécu intimement il y a 2 ans. Mais qu'est-ce que c'était ce tout ? La révolution et puis ensuite tout. Ce que nous voulons, tout. Oui, mais quoi, tout ? Alors voilà, c'est ce quoi ? C'est ce tout qui sont en train de découvrir, de limiter, d'apercevoir que ce que les uns mettent dans le mot révolution, dans les possibles, n'est pas forcément la même chose que pour d'autres. Ça s'appelle peut-être pas la démocratie, mais la marche vers la démocratie. C'est ce que nous souhaitons à nos amis tunisiens. Et j'ai dit le réveil cabossé. Ce réveil, effectivement, est cabossé. Et il y a ceux qui veulent voler les aiguilles de ce réveil. Il y a ceux qui tentent de les faire tourner à l'envers. Il y a ceux qui jettent des mots et des drapeaux à l'intérieur du réveil pour coincer les rouages. Mais, si vous tendez bien l'oreille d'ici à la fin de cette heure, comme nous l'avons fait, eh bien, dans cette effervescence cacophonique, vous entendrez nettement le cœur du réveil tunisien qui bat.
But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
حب الروح تغطى كريز نشرب الخضرة بسموكي تريز بوليتيك ولا بيز سي لا ميم شوز كيما كي لا بيز زيد قوي في الدور جو كوفي ليبرتي سوليداريتي ديموكراسي ان اس دي ساباس على راديو ساباس على تيلي حكموا العقول خلاو الشعب اوبوتي لا يمين لا يسار طول السيتاب بوليسي كيما البارح كيما اليوم الشعب الزان اوبخيمي تيمخيمي اونتونسون ديكومبخيمي مخدرين مكدرين مكنترين ارمي اللوم على الاخرين وين ماشيين في شارع حزين كزين مكرزين الهوا
الحين السمي قطر من عيني الكلام لخدمة الزين تخدم في العابدين الرحمة لا كيست اسير فرطاس سير غفاس تيتو كاس تيتو فاس عملتو جين كارباس الماكين تقعد رقاس ريزو خوندو كريز بكرة بوليتيك رجي بار لبيز لك عطاريني ام بيز اتيريز تاماتي اكريز شبيز سبكي ماريبولي تيروفيز على الوحيز Pas que les enfants de crise, faut que la politique régie par le vice des Qataris et les Anquis. Utilise ta matière prise, je brise ceux qui manipulent les terroristes à leur guise.
Knowledge for the people.
Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête, une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves.
L'image des Zaman, et quand ça rachat, c'est urugina d'ima.
Namoutou, namoutou, wa yahya l'watan.
C'était
l'hymne national.
L'hymne national tunisien. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, cette journée-là de 14 janvier 2016
une fête, un jour fête, on est content. Frahani bien le Thawra. Rabbi subhanahu wa ta'ala ghayrna l'wad'a ou kharja lina kal taghia.
Donc c'est une fête nationale. On est très content que Dieu Tout-Puissant a fait que le dictateur soit parti. Le dictateur Ben Ali, c'est grâce à Dieu s'il est parti.
Grâce à Dieu, نعم, من اجل ربي سبحانه وتعالى من الصبر والدعاء للعباد كثر الظلم حتى ربي سبحانه هز علينا.
C'est grâce à Dieu, tout à fait, c'est aussi grâce à la patience et aux prières des citoyens. Vous madame, vous avez prié pour le départ de Ben Ali?
Bien sûr, ma fille chak. Ma fille chaque coup n'a même pas de calmeur, clair, même de calmeur.
Alors oui, bien sûr, tout le monde a fait la prière, a souhaité le départ de Ben Ali. Et avant, on était complètement opprimés, on ne pouvait pas s'exprimer.
فرحانين مش موت بالفرحانين أسعد يوم عنا واليوم فرحانين بيه ولادنا ولاو يقرأوا ويخدموا ورجعنا خرجوا من الحبوسات وإحنا فرحانين وإن شاء الله الناس كل تفرح.
On est très content, c'est le plus beau jour de notre vie. Nos enfants vont à l'école, nos enfants travaillent, nos maris sont sortis de prison, ils peuvent aller à la mosquée, on peut mettre le voile, on est content, on est heureux. Votre mari était en prison ?
Mon frère, khouya ou andi fi l'aïla. Ama kunna fi chada.
Donc mon mari n'était pas en prison, mais mon frère y était. On a des membres de ma famille qui ont été emprisonnés parce qu'ils appartiennent à Narda. Et comment vous vous appelez, madame ?
Khadija.
Khadija. Et il y a un drapeau noir là dans le rassemblement. Qu'est-ce que ça signifie ce drapeau noir là avec les écritures blanches ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Alors, le drapeau noir, là, on dit que c'est les drapeaux des salafistes, mais moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, je ne peux pas vous répondre. Vous ne savez pas à quoi ça correspond exactement ? Alors, c'est écrit « Dieu est unique », le seul Dieu, c'est Allah, et Mahomet, c'est son prophète. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec les salafistes ou pas du tout ? Alors, je ne côtoie pas du tout les salafistes, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, et je suis juste musulmane, je n'appartiens à aucun parti.
Voilà, on vit tous ensemble pour nous aider. Mais on va donner les choses, les gens qui sont les faillites de la communauté, les gens.
Grâce à Dieu, Inch'Allah, on va vivre tous ensemble. Même si on est différents, on peut vivre tous ensemble. Il faut juste qu'on applique les lois de l'islam.
Voilà, oui. Ils ont fait l'islam. Ils ont fait l'islam. Ils ont fait l'islam. Ils ont
Donc c'est les ennemis de l'islam qui sont en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. On parle de polygamie, on dit que les femmes sont battues, mais c'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai.
Monsieur
midi et quart, là, il y a toujours un flot incessant de personnes qui passent et repassent sur cette avenue Bourguiba. On voit passer un groupe de personnes. Enda ?
Alors là, c'est carrément des salafistes. Hein. Ah oui, donc c'est plus de Narda. Là, c'est des salafistes, donc ils disent autre chose. Ils ont le drapeau, le fameux drapeau noir avec écrit dessus « Layla Allah Muhammad Rasulallah ». Et ce qu'ils disent, voilà, ils traitent Qaïd Essebsi, qui est le président du parti Nidé Tounes, appel de la Tunisie, ils le traitent de « rat ». Ils lui disent « Essebsi, espèce de rat ». Et après, ils parlent de la charia. Ils disent « Le peuple veut l'application de la charia ». Mais c'est un tout petit groupe, hein. Je crois que tu...
Oui, ils sont une dizaine de personnes, là. Ils viennent de passer à toute vitesse et ils agitent des drapeaux noirs avec des inscriptions blanches dessus.
C'est la fille, là,
alors là, on est là, en plein milieu de l'avenue de Bourguiba. D'un côté, tout près du théâtre, là, il y a les militants des Narda. Et de l'autre côté, en face, il y a des personnes là, qui manifestent contre Narda.
Qui manifestent contre le gouvernement. C'est pas contre Narda, c'est contre tout le gouvernement. Ce qui est en train de se passer là, à l'instant, c'est que la manifestation des opposants passe exactement devant la manifestation culturelle de Narda. Et alors, il y a des slogans et des anti-slogans. Hein. Les opposants disent à Narda, dégage. Et les militants Narda sont en train de hurler, le peuple veut Narda encore.
Il y a des clashs là.
Ils sont en train de s'insulter. Là, comme on est du côté de Narda, on voit plutôt ce que Narda disent. Et ils sont en train de traiter les opposants de 0, 0, c'est toute une histoire. C'est-à-dire qu'ils ne représentent rien, qu'ils ont eu 0,% aux élections, donc ils ne représentent rien.
Là, on est dans une cohue. C'est délirant, il y a un monde incroyable. Et vous, monsieur, vous êtes au milieu des manifestants, là ?
Non, moi, je suis neutre.
Neutre ?
Oui. خاطر بصراحة أنا ما لقيتش حتى حزب معناها يلبي طموحات الشباب وسيرتو اللي كون الثورة هي صارت
مسار الشباب. Je n'ai trouvé aucun parti qui représente les jeunes, qui répond aux attentes des jeunes.
أنا مع زيد كما صاحب شهادة علا يعني بقاو يمنيو فينا كل مرة هي فما انتدابات فما ما شفنا شيء معناها.
Moi je suis diplômé chômeur et à chaque fois À chaque fois, on nous promet des postes, on nous promet des concours, mais franchement, jusqu'ici, on n'a rien vu du tout. Finalement, tous les partis, ils ne pensent qu'à prendre le pouvoir et ils ont oublié la principale raison pour laquelle il y a eu la révolution, c'est-à-dire le travail. Il n'y a rien qui change.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude, vous ?
J'ai fait une maîtrise en langue russe appliquée au tourisme patrimoine.
Alors, j'ai une maîtrise en langue russe appliquée au tourisme et au patrimoine.
J'ai aussi une licence de langue italienne.
J'ai frappé à beaucoup de portes, mais elles sont toutes fermées.
Il n'y a pas de travail.
Il n'y a pas de travail. Chacun pour soi.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Matloufi Abdelmonam.
Abdelmonam Matloufi.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ?
Je participe dans cette révolution, nouvelle révolution.
Je participe à cette nouvelle révolution.
Je cherche à la khedma, madame, pour le centre d'appel.
Et je cherche du boulot dans un centre d'appel, par exemple, ou des trucs comme ça.
Dans un centre d'appel ?
Oui, centre d'appel italien. Allez. باش نعيش باش يعني نوفر مصروفي ومعنا ما نقلقش دارنا عليا ونحب نعاول على روحي.
Donc je vais travailler dans un centre d'appel, peut-être italien, pourquoi pas. C'est juste pour être un petit peu indépendant, pour que ma famille ne s'inquiète pas pour moi.
T'as quel âge ?
25.
J'ai 25 ans.
تاع الشارع اني كاتب ساش انفون اهداها للمسؤولين وزيد مثل لو بريزيدون نحكي عشيني ما تحكيش علي لهنا الصحافة مادام اشتري جورناليست ولا تخوف نحكي عشيني نورمال مو ما لازموش يدرا عالحاجات اللي قاعدة صير ما صورهاش لكاميرا نحكي عشيني قاعد يصير في الكواليس عاللعب تاع الكبارات وتخافيك تاع لابوليس هاني جيت باش نوصل مش باش نبقى برشا نفصل هوني معيش فاك اللي ريش ضحي النصر ولاد الشعب تعاني غارقة في السوسول هما يبدو في البلاصات صهريات شي خاوة الكون ما تستحقش نبين وحدك انتي تفهم الشعب كي يشوف هكا وحده ينقم نخدم ما فماش وجعانا بالمليون ولد فلان كيحب خدمة جوست يهز التليفون سيد الوزير انتي في بيغو كليماتيزي ولاد الشعب بالمشاكل هاي قاعدة بغاليزي تشوف ابنوتيزي في لي مونسونج تاع لي ميديا ما عادش تفرق بين لي كوميديان ولي بوليتيسيان سيد المسؤول في دارك عندك بيسين ولاد الشعب هاي غرقة في الصبخة نتاع الملاسين انتي بنتك تمشي تاع مرسيدس وفكوسات واحنا خواتنا يتنشلو في الكيان والمتروات
La journée historique a commencé sur cette avenue Bourguiba, au cœur de Tunis.
France 2.
La plus grande manifestation jamais organisée.
14 janvier 2011.
Des milliers de Tunisiens clament une revendication précise et non négociable, la démission du président Ben Ali.
Il y a eu 90 morts à peu près. Il y a eu au moins 1000 blessés. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien.
Devant le ministère de l'Intérieur, rebaptisé le ministère de la Terreur, la police disperse violemment la foule. Tirs de grenades lacrymogènes et course-poursuite dans les ruelles adjacentes. Des affrontements durent plusieurs heures. Les policiers en civil se mêlent aux uniformes. Vers 16h, la télévision d'État annonce coup sur coup la dissolution du gouvernement et des législatives anticipées dans les 6 mois. Alors que de la fumée s'échappe au-dessus de la capitale, l'état d'urgence est décrété, l'aéroport est sous contrôle de l'armée. Les promesses spectaculaires faites la veille par un président tunisien prêt à toutes les concessions pour se maintenir au pouvoir n'ont manifestement pas suffi.
Je vous ai compris. Je vous ai compris.
Ben Ali accordait la liberté totale d'information et promettait de se retirer en 2014. Rien n'y a fait. Après cette folle journée, la télévision d'État dit vers 18h s'attendre à une annonce historique de nature à satisfaire les désirs du peuple. À 18h45, ce trio apparaît au centre. Le Premier ministre Mohamed Ranouchi, qui se déclare le nouveau président de la Tunisie par intérim.
Et 2 ans après, le 14 janvier dernier, nous étions avec Anaël Berzo dans la manif qui commémore le départ de Ben Ali. Récemment, jusqu'à ces jours derniers, les Tunisiens à Tunis ont organisé une foire pour mettre en vente une partie des biens spoliés par les proches de Ben Ali et de ses des proches de Ben Ali. Et c'est un spectacle extraordinaire que vous pouvez voir sur le net. On vend les voitures, les tapis, les bijoux de Ben Ali. On en espère 10 millions d'euros comme ça qui serviront peut-être à... qui serviront, pourquoi en douter ? Pourquoi on pourrait en douter ? À améliorer le sort des régions. C'est une revendication de la Révolution, mais évidemment c'est une goutte d'eau par rapport aux centaines de millions, aux milliards qui ont été détournés par Ben Ali et son clan pendant toutes ces années-là. Tunisie est dans une situation évidemment extrêmement difficile, avec une situation économique très très difficile qui s'est dégradée au niveau du tourisme, au niveau économique, au niveau industriel aussi. Et les Tunisiens se trouvent dans la situation de reconstruire un bateau alors qu'ils sont en pleine mer et que les requins les cernent et sont même déjà à bord. où va le navire, on ne sait pas trop où est passée la feuille de route, la constitution, ça pourrait être ça la métaphore, c'est en cours. Y a-t-il un capitaine à la barre? Oui, semble-t-il, mais provisoirement. Et d'ailleurs, y a-t-il une barre tout court? Alors, tout ça peut faire sourire, mais voilà, c'est ça un processus. Dans les médias français, c'est unanime. La Tunisie est en train de se couvrir de barbus et de burkas. Les révolutions finissent toujours mal. Ça, c'est un logiciel qui est totalement intégré dans l'esprit du monde intello-médiatique français. Et puis les Français savent de quoi ils parlent puisqu'ils sont Français. Les Tunisiens, c'est un peu autre chose quand même. C'est tout à fait autre chose. Ils sont là, ils étaient là ce jour-là, dans la rue, dans les rues de Tunis.
Alors là, on arrive dans l'autre partie de la manifestation, la partie des opposants à Narda. Là, il y a une rangée de policiers. On est juste derrière la rangée de policiers. On va essayer de passer devant.
Ouais, c'est devant.
Voilà, on passe devant. Il y a une foule, hein.
Oui, il y a du monde, il y a du monde. Et donc, les organisateurs, c'est trois partis de l'opposition. Il y a le parti La Voix démocratique et sociale, qui est un parti de gauche. Il y a le parti Républicain, qui est aussi un parti de centre-gauche. Et puis, il y a le Front populaire, qui est le rassemblement de plusieurs partis de gauche, nationalistes, mais de gauche, essentiellement.
C'est un peu l'équivalent du Front de gauche en France. Et on est en plein milieu de l'opposition entre Narda d'un côté, sur le trottoir, sur le bas-côté, et les manifestants qui sont au milieu de l'avenue de Bourguiba.
C'est un slogan qui veut dire « Les Tunisiens n'ont pas peur des balles ».
Les Tunisiens n'ont pas peur des balles. Pourquoi vous dites ça ?
Alors, parce qu'il y a encore beaucoup d'injustice et beaucoup d'hypocrisie.
Vous venez d'où ?
Gafsa.
Gafsa. Du bassin minier.
Le phosphate du bassin minier, c'est Narda qui en a profité. Voilà, après Ben Ali, on a eu Narda. Alors nous, à Gafsa, donc au bassin minier, on a fait notre révolution en 2008. Depuis 2008, on avait dit dégage. Alors déjà en 2008, on a été arrêté par les policiers de Ben Ali et on a eu droit aux balles réelles et aux coups de matraque, etc.
On est face à trois jeunes hommes là avec la casquette. Ils ont quoi, 25 ans à peu près ? 18 ans.
Ouais, vous voyez, on a 18 ans, tous les trois.
Et vous avez fait la révolution en 2008 à Gafsa.
Oui.
Et qu'est-ce qui a changé maintenant depuis la révolution ?
Rien a changé.
Alors à Gafsa, il n'y a rien qui a changé, absolument rien. Il
n'y
a pas que à Gafsa que rien n'a changé. Dans tout le pays, dans toute la Tunisie, rien n'a changé. Les mêmes problèmes d'avant la révolution, ils sont toujours après la révolution. C'est les mêmes problèmes.
C'est quoi ces problèmes ? Quels sont ces problèmes ?
Où est parti l'argent du bassin minier ? On ne voit pas où c'est. Le phosphate, on le vend très cher, mais nous, à Gafsa, on ne voit pas l'argent du phosphate du bassin minier.
Qu'est-ce que vous attendiez de la révolution ?
Les libertés et des emplois.
Le taux de chômage est combien à Gafsa ? C'est énorme, c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire avec ton visage, là, ta tête qui fait fou. C'est énorme.
Ils ne savent pas exactement. Ils ne savent pas exactement, mais c'est pour dire que tout le monde est au chômage pratiquement. Voilà.
Alors, s'il vous plaît, vous avez m'a demandé une manette réponse à une mineure à l'âge de 17 ans. Oui. قداش مستواه
18
لان مستواه قريت لا سي فو بلي في بون كولتير كولتير هذه راي
سي فو بلي فوس فوس حتى انا نجم نعيط راه
كاين البروبليم
فوالا فو زافي دوموندي اون كاسيون دو دو شوماج
مش رينا هي
سي تي ام سي تي ان جون كارسون على جي دي 18 ans la culture فرونسيز ولا
يعس علي
فو زافي دوموندي دا كولتير Qu'est-ce qu'il voulait dire? Existe à la manette,
alors.
Non, il faut penser de la culture française.
Non.
Ça va.
C'est bon.
On a été coupé dans notre entretien avec ces trois jeunes de Gafsam, parce qu'il y a un homme qui vient de s'interposer pour raconter je ne sais quoi.
De tout sauf de la culture.
Enda, qu'est-ce qu'il voulait lui?
Le monsieur là, alors le monsieur, il défend le gouvernement. Il pense qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils sont en train de mentir, que c'est pas vrai qu'il y a le chômage à Gafsa, qu'il y a du boulot mais que les gens ne veulent pas travailler. Et il vient nous insulter et nous dire que nous ne savons pas travailler, parce que je crois que tu t'en es pas rendu compte, mais on t'est entouré de gros hommes comme ça, énormes, qui nous regardaient comme ça, qui jetaient des petits mots, etc. Et ils ont commencé à nous insulter, voilà. Et ce qu'ils disaient, c'est, voilà, vous les Français et la culture française, vous voulez nous imposer votre culture à vous. Alors je lui ai dit, on a été dans la manifestation de Nada, on a interviewé des militants Nada, on a pris leur point de vue, etc. Là, on essaie de voir d'autres personnes, et puis si vous avez quelque chose à dire, on peut venir vous poser des questions et vous aurez le temps de répondre. Il a refusé, et quand il a commencé à te bousculer comme ça, et que moi j'ai pas supporté, il a commencé à hurler, donc moi aussi j'ai hurlé. Et voilà, bon, finalement...
Finalement, mais c'est quand même assez chaud en Tunisie. Actuellement, la situation est très souvent très tendue. Elle l'était ce jour-là, ce 14 janvier, date anniversaire du départ de Ben Ali. Il y a dans toutes les révolutions les voleurs de révolution. Il y a ceux qui en sont les instigateurs, qui en sont parfois les victimes. Et puis il y a ceux qui arrivent derrière, qui n'y ont pas participé, mais qui ont les moyens et qui ont les structures et l'organisation pour récupérer le courage et l'insoumission des autres. C'est un scénario, hélas, classique qui s'est produit un peu en Tunisie. On retrouve Omeya Sedik. Omeya Sedik, c'est un homme engagé à Tunis dans toutes sortes de combats. Il est également journaliste et un bon observateur de la scène tunisienne.
On est toujours dans la manifestation à Ville Bourguiba. Il y a des cris là-bas.
Ah, c'est le bassin minier.
Ah, c'est le bassin minier là. Alors, on se dirige vers les militants du bassin minier de Gafsa, une région du centre de la Tunisie, particulièrement sinistrée, d'où est partie la révolution le 5 janvier 2008, la révolution populaire.
Tout a commencé en janvier dernier avec une banale affaire de favoritisme dans le recrutement organisé par une entreprise nationale de phosphate,
France 3,
dans le bassin minier de Gafsa, à 450 km au sud de Tunis.
28 avril 2008.
Un conflit social qui s'est transformé en mouvement de contestation après l'intervention musclée des forces de sécurité. Principalement dans la ville de Redeyef, devenue le théâtre de manifestations quotidiennes contre le gouvernement tunisien.
Tout ce qui arrive est le résultat de longues années de répression, d'humiliation, d'appauvrissement. Il s'enrichit sur le dos du peuple.
Des propos qui ont valu à Adnan Hadji d'être arrêté plusieurs fois et suspendu par son syndicat. Mais ce mouvement serait resté largement méconnu en Tunisie s'il n'avait pas été relayé par la télévision d'opposition Aliouar, littéralement le dialogue. Ces images ont été tournées entre le 20 mars et le 7 avril dernier dans des conditions particulièrement difficile. Cela fait maintenant plus de 3 mois que le bassin de Gafsa est en ébullition. Mais ici à Tunis, pas un seul mot de ces événements à la télévision et à la radio d'État, ni dans les journaux tunisiens autorisés à paraître.
Là, on les voit passer avec des pancartes. Les martyrs. Il y a beaucoup de jeunes, des hommes, des jeunes hommes, beaucoup, des filles. Il y a quelques femmes aussi, un enfant sur les épaules de son père. Qu'est-ce qu'ils disent, Omeya ?
Tout le monde est mélangé. C'est l'hymne national tunisien.
Et qu'est-ce qu'ils réclament ? C'est toujours autour de la reconnaissance des martyrs ?
Oui, d'être compris dans l'article 97. Je suis un observateur de ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui.
Alors là, donc aujourd'hui, on est le 14 janvier. On célèbre d'un côté les 2 ans de la Révolution, de la fuite de Ben Ali. On a avancé pour toi par rapport à il y a 2 ans ?
On n'a pas beaucoup avancé, on a juste pris acte de la rupture qu'il y a eu. Si on veut avoir une lecture positive, on peut dire qu'après 2 ans, il n'y a plus de retour en arrière possible, en tout cas pas dans un avenir proche. Aucun gouvernant ne pourra faire ce qu'il veut. Décider que bon, allez, ça y est, la récréation est finie, et maintenant, retournez à vos maisons et c'est moi qui commande, ça c'est pas possible. Puis bon, si les politiques oublient ces exigences-là, je pense que la population est encore capable de se rappeler à leurs souvenirs. GAFSA, c'est une bonne illustration de la situation. Au-delà de cette question de l'article 97, qui est... c'est n'importe quoi. Hein,
Tu peux nous rappeler ce que c'est que cette question, l'article 97 ?
En fait, les habitants du bassin minier de GAFSA considèrent, à juste titre, que leur mouvement, qui a été un mouvement profond, qui a duré longtemps, qui a combattu Ben Ali de manière très vigoureuse en 2008, a été le mouvement qui a été le coup d'envoi de ce qui a donné la révolte du 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Et ils considèrent qu'ils veulent que leur statut de révolutionnaire et le statut de leur martyr, comme martyr de la révolution, doit être reconnu comme tel. L'Assemblée nationale constituante et la majorité de l'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire les députés du parti Nahda, ont considéré que dans cet article 97 qui parle de comment on va indemniser et reconnaître les martyrs et blessés de la Révolution, on va mettre ceux qui sont morts ou blessés entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011, ou les mois au-delà, c'est-à-dire à partir du 17 décembre 2010. Alors ça, c'est, d'après moi, une grosse erreur de Nahda, mais c'est plus profond ce qui se passe à GAFSA. C'est-à-dire que cette histoire de martyrs et de blessés n'est que le symbole de ce qu'ils vivent. C'est une région qui a vécu une révolte profonde, avec des demandes sociales très structurées. Or, ces demandes ne peuvent pas être satisfaites si on ne change pas complètement de mode de production, de distribution de richesses, etc. dans la région. Satisfaire les demandes du bassin minier signifie rompre avec un système libéral qui est encore là.
Ce que tu es en train de nous dire, là, c'est qu'en Tunisie, le problème principal, c'est 17,6% de chômage officiellement. Sur 80 000 diplômés, seulement 25 000 emplois. Donc 55 000 personnes qui ont un diplôme et qui se retrouvent à la rue, enfin dans la nature en tout cas, sans emploi, et qui pour le moment n'ont pas de réponse à la pauvreté.
Oui, oui, mais ça c'est pas nouveau. On ne peut pas rompre avec un système injuste de manière indolore. On ne peut pas rompre avec un système ultralibéral sans qu'il y ait des conséquences immédiates. Du genre désinvestissement, fuite de capitaux, difficultés accrues à obtenir des crédits des organisations internationales, FMI, Banque mondiale, mais aussi des États. Donc s'il y a une décision réelle de mettre en œuvre une politique alternative, cette politique alternative coûtera cher au pays, sera douloureuse, et personne n'a les moyens de mettre en œuvre quelque chose de douloureux, sauf s'il obtient un gros consensus dans la population. La question donc est quel type d'alliance il va y avoir. Est-ce que ce compromis historique se fera sur la base d'un compromis historique libéral, entre des libéraux avec barbe et des libéraux sans barbe, ou est-ce que ce sera un compromis historique entre des forces qui se veulent, d'une manière ou d'une autre, fidèles aux demandes de la Révolution.
Aux demandes sociales.
Aux demandes sociales et populaires de la Révolution. Le principal obstacle à ce qui est un consensus, on va dire, proche des demandes populaires, c'est la manière dont s'est dessinée la carte politique, principalement autour des questions de laïcité, de l'islamisme, etc., des clivages un petit peu bidons. Voilà, on en est là.
Alors là, on s'est immiscé dans une petite rue qui est perpendiculaire à l'avenue de Bourguibar, et c'est la dispersion de la manifestation. Chacun rentre chez soi, dans le calme. Apparemment, ça a failli dégénérer, mais finalement, tout est calme.
Je m'appelle Ahmed Belhaj Khalifa. Moi, je suis le porte-parole syndicat des policiers en Tunisie, l'Alliance. Comme chez vous en France, vous avez l'Alliance syndicale. Bon, qu'est-ce qu'on pense, nous, les policiers en Tunisie? On veut avoir une police républicaine qui travaille seulement pour ses citoyens, ne fait pas de la politique. Elle est neutre. La seule chose qu'on a gagnée après la révolution, c'est notre syndicat. C'est avoir le droit de parler, de dire non, on n'accepte pas ça. Non, on demande ça. C'est ça la nouveauté chez nous en Tunisie.
Parce que vous, vous étiez déjà policier du temps de Ben Ali.
Et je le suis encore.
Et vous l'étiez à l'époque.
Oui, et avant. C'était la catastrophe avant. On travaillait, on dirait des esclaves de Ben Ali. On travaillait à sa guise.
Alors vous, vous dites, nous on était policiers du temps de Ben Ali.
Ouais.
Et on était les esclaves de Ben Ali.
Oui.
Alors ça, c'est un discours qu'on n'a jamais entendu.
Bien sûr. On n'avait pas le droit de parler, ni discuter, de faire tout.
Qu'est-ce que vous nous demandez de faire à vous, par exemple, personnellement, Ben Ali?
Être des serviteurs.
C'est-à-dire, ça consistait en quoi? Vous deviez mettre sur écoute des personnes, des
militants?
Non,
je ne peux pas entrer dans ces sujets-là qui sont jusqu'à maintenant un peu tabous. Hein. Mais généralement, on n'avait pas le droit de dire non.
Parce que nous, on était venus à l'époque de Ben Ali,
ouais.
Des personnes de l'émission, là-bas, si j'y suis, et c'était très difficile pour les journalistes de travailler là, on était mis sur écoute, on nous prenait nos bandes,
voilà,
et tout
voilà.
Ça.
Bon,
et là, je peux vous parler tranquillement.
Vous avez dit tout ça, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils avaient des ordres. Et si vous refusez ces ordres, ils seront à la porte. C'est pour ça.
Et tous les policiers maintenant, c'est des nouveaux policiers ou ils étaient tous policiers déjà à l'époque
non,
de Ben
Ali? Non, les policiers maintenant, il y en a des anciens, qu'ils y travaillent encore maintenant, il y en a des nouveaux, 10 000 personnes qui sont nouveaux maintenant, mais il y en a des anciens. Mais Dieu merci, les anciens qui existent maintenant, ils sont des patriotes. Vraiment, je suis fier d'être un policier, de servir mon peuple. Enfin, j'ai eu ma liberté et je veux bosser pour une bonne cause. Tout ce qui est illégal, on n'est pas prêt à le faire.
Alors, il y a une question que beaucoup de personnes ici se posent, c'est la question de la justice transitionnelle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas eu d'épuration, mais...
On accepte la justice. Si un policier a commis une erreur, il doit l'assumer. Il doit l'assumer, selon la justice, la vraie justice. Hein.
C'est-à-dire que si, à l'époque de Ben Ali, donc une époque qui a quand même duré 30 ans de dictature, un policier a torturé, par exemple, un militant, quelqu'un de l'opposition...
Il doit assumer, sans problème. Déjà, il y en a des policiers qui sont en prison, maintenant. Ils vont être jugés. Et moi, comme syndicaliste, je ne suis pas prêt à le défendre. Il a commis une faute envers un citoyen tunisien, il assume, sans problème. S'il y en a des victimes, ils vont demander la justice, ils vont donner qu'est-ce qu'ils ont comme argument, comme dossier, j'en sais pas moi. Et après, on verra. Et on est prêt.
Et ça va concerner beaucoup de policiers parce que...
C'est pas un problème. Ce sont pas tous les policiers qui font des bêtises, je ne sais pas quoi. Ce sont pas tous. Il y a une minorité. Elle doit assumer, tout simplement.
Voilà, rassuré, non ? Tunisie, le réveil cabossé. C'était un reportage d'Anaël Berzo à Tunis pour ce 14 janvier, à l'occasion du deuxième anniversaire de la Révolution. Aujourd'hui, vous le savez, 25 janvier, c'est l'anniversaire de la Révolution égyptienne. Merci à tous, merci à Enda Krishan pour la traduction, merci à Omeya Sedik, Nicolas Beau, Kamel Jandoubi et Selmas Guidi. Et puis hier, Antoine Chao était avec les salariés de l'usine PSA. Il y a une caisse de grève, si vous voulez les soutenir, c'est CGT-PSA cgt-aulnay.fr. Je recommence, cgt-psa-aulnay.fr. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et nous faire des commentaires, également sur le site là-bas.org, là-bas.org, et puis aller faire un tour aussi sur la page Facebook de l'émission. Éric Morin et Michel Bézikian étaient à la technique aujourd'hui. C'est Lucie Hakoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic. Et puis Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Voilà, et nous on part en Tunisie la semaine prochaine. On sera en Tunisie pour compléter ces reportages et essayer d'aller plus en profondeur, montrer, essayer de comprendre où en est la Tunisie 2 ans après. Je le disais en commençant, pour les médias français, le grand sujet, c'est le salafisme, c'est les barbus, c'est la burqa. On va voir que c'est pas le seul problème. J'espère, en tout cas, nous, on part avec d'autres hypothèses qui seront évidemment confrontées aux réalités et aux rencontres que nous ferons au cours de cette prochaine semaine. Réclame.
Inter, partenaire des Assises nationales annuelles de la lutte contre le négationnisme, le 27 janvier à l'ESG Management School à Paris. Philosophes, journalistes, historiens et rescapés analyseront les rapports entre médias et négationnisme ainsi que les différents visages de ce fléau, du génocide des Arméniens à celui des Tutsis rwandais, en passant par la Shoah. Retrouvez les Assises nationales de la lutte contre le négationnisme dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve donc lundi. On ne vous laissera pas tout seul, vous inquiétez pas. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
C'est une information de nos confrères de France Bleu Brésil. Les trafics des TGV, des TER sont interrompus depuis ce matin entre Brest et Morlaix. La conséquence d'un éboulement qui s'est produit sur les voies de chemin de fer. Des moyens de substitution ont été mis en place. Le retour à la normale est lui annoncé pour dimanche. Le 2e anniversaire de la révolution égyptienne est en train de tourner à l'affrontement entre pro-Morsi et opposants. Les locaux des frères musulmans ont été mis à sac et incendiés aujourd'hui en marge d'une manifestation. Au Caire, des manifestants hostiles au pouvoir se sont rassemblés devant un immeuble de la télévision d'État avant de se rendre place Tahrir où des accrochages ont eu lieu. Enfin, à Alexandrie, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre des manifestants qui ont brûlé des pneus. Idem à Suez, où des manifestants ont jeté des pierres sur le siège du gouvernorat local. Les opposants à Mohamed Morsi réclament aujourd'hui une nouvelle révolution. Les forces françaises et maliennes font actuellement route vers Gao, près de la frontière avec le Niger. La France est entrée dans la 3e semaine aujourd'hui de l'opération Serval, mais elle n'a pas vocation à rester au Mali, déclare aujourd'hui Jean-Marc Ayrault, en marge d'un déplacement en Argentine. Et il n'y a pas, selon lui, de risque d'enlisement dans ce conflit. En Syrie, l'armée syrienne a relancé aujourd'hui son offensive sur la ville de Homs, bastion des rebelles dans le centre du pays. Elle a dépêché sur place des milliers de miliciens pro-gouvernementaux pour tenter de sécuriser un passage. Nouveau mandat, nouvelle tête à la Maison-Blanche. Le président Obama va nommer aujourd'hui Denis McDonough au poste stratégique de secrétaire général de la Maison-Blanche. Il remplacera ainsi Jack Lew, qui vient d'être lui nommé au Trésor. Âgé de 43 ans, McDonough est l'un des plus proches conseillers de Barack Obama depuis 10 ans. C'est notamment lui qui l'a aidé à mettre en place l'équipe du bureau du sénateur Obama fin 2004. En France, il y a des manifestants contre le mariage homo. En Russie, il y a des lois. Les députés russes ont adopté aujourd'hui en première lecture une proposition de loi qui punit tout acte public qui constituerait une propagande de l'homosexualité auprès des mineurs. Un texte critiqué par des militants des droits de l'homme. Au lendemain de l'annonce d'ArcelorMittal de fermer plusieurs sites à froid de l'usine de Liège, le gouvernement belge annonce aujourd'hui qu'il va chercher un repreneur. Mais pas question de nationaliser les activités menacées, comme le réclament plusieurs centaines de salariés qui ont d'ailleurs manifesté dans le centre de Bruxelles aujourd'hui. 1300 emplois en tout sont en jeu. Il faut faciliter le passage des salariés de l'automobile actuellement en difficulté vers l'aéronautique, l'antidépresseur de l'économie française. Pour ce faire, Arnaud Montebourg, qui était en déplacement aujourd'hui à Toulouse, propose de mettre en place rapidement des formations. Le ministre du Redressement productif a dans le même temps lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle se tourne vers l'aéronautique. Il y a des emplois à pourvoir, dit-il. Engagez-vous. Enfin, les médecins de Grenoble, des urgences du CHU de Grenoble, menacent aujourd'hui la direction de démissionner d'ici un mois. Ils réclament de meilleures conditions d'accueil des patients et dénoncent aussi un manque de moyens pour assurer la sécurité des malades. Il n'y a par exemple qu'un médecin urgentiste la nuit pour s'occuper des patients qui peuvent atteindre la quarantaine parfois. Certains attendent même jusqu'à 48 heures sur des brancards, faute de lits, sans compter les plateaux repas qui doivent être rationnés. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Nous autres.
Il me semble aussi qu'il y a une telle force et un tel triomphe de la volonté de vivre, car enfin c'est la volonté qui permet de surmonter les épreuves.
Zoé Varier.
Pour le centenaire de sa naissance, hommage à Charlotte Delbo.
Et c'est celle-là dont nous avons eu recours pour en sortir, grâce à quoi nous en sommes sortis.
Résistante.
Parler est important.
Femme hors du commun.
C'est vraiment la preuve que vous existez. Parlez.
Un écrivain. On ne connaît pas assez.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Sylvie Chapelle. On parle musique ou justice aujourd'hui?
On parle les deux.
Ah,
Laetitia, on vous retrouve à 17h?
Oui, ça marche, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
J'aime quand je reconnais directement la voix de Oxmo Puccino.
Une voix, c'est comme un charme, dans le sens de jeter un sort.
Les chansons, au départ, je ne les fais pas pour le public.
Françoise Hardy, c'est...
Je les fais pour une personne en particulier.
C'est la mélancolie.
J'ai appris la guitare comme ça, avec un moniteur de ski qui m'a appris 3-4 accords.
On n'écoute plus que les choses essentielles pour ne pas faire du à la manière d'eux.
Il est génial.
Avec Sylvie Chapelle.
Ce Megamix France Inter, la Daft Punk.
On parle musique.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dialogue musical d'une heure, un dialogue ouvert aux personnalités qui créent la musique ou qui la portent, aux musiciens comme aux mélomanes. Et justement, notre invité est connu de tous, mais pas forcément pour son rapport amoureux à cet art. Il intervient quand il s'agit de justice, d'injustice, de droits de l'homme et de liberté. Chers auditeurs, nous sommes privilégiés. On parle musique avec Robert Badinter. Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Je vous remercie d'être avec nous. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Peu de gens connaissent votre lien pourtant profond avec la musique. Vous me l'avez confirmé. C'est la première fois, je crois, qu'on vous invite sur France Inter, en tout cas, pour en parler. Du coup, nous avons bien préparé l'émission ensemble. La justice est ma passion constante et prédominante, c'est ce que vous dites. Et dans le domaine, votre parcours est d'une richesse rare. Avocat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, président du Conseil constitutionnel. Vous avez également contribué à la rédaction du nouveau code pénal, à la création de la Cour pénale internationale de La Haye. Vous êtes actuellement membre de la Commission internationale contre la peine de mort, auteur d'une douzaine de livres et pièces de théâtre, et maintenant vous êtes librettiste. Vous venez d'écrire un livret d'opéra. C'est une première, tout comme son compositeur Thierry Esquèche. L'œuvre sera présentée à l'Opéra de Lyon dans les prochaines semaines. C'est une création mondiale. Vous m'avez dit que vos anciens collègues étaient étonnés de ce projet.
Oui, de la part d'un juriste qui ne s'est jamais occupé, pour l'essentiel, que de textes, de codes, de constitutions, d'histoire aussi, toute ma vie, annoncer à des amis qui vous interrogent, oui, qu'est-ce que tu fais ? J'achève la composition d'un livret d'opéra, ça étonne, ça fait un peu fumiste. On se dit, tiens, pourquoi ?
C'est pas pris au sérieux.
Pas tellement, non.
Est-ce que vous avez peur du jugement, non pas judiciaire, mais artistique ? Est-ce que vous redoutez la réception du public ?
Écoutez, on verra. Vous dire que je suis dans l'angoisse du verdict, ce serait tout à fait excessif. Mais curieux de savoir quel sera l'accueil réservé à cette œuvre. Je rappelle que c'est d'abord le compositeur qui s'y importe, c'est-à-dire Thierry Esquèche. Oui, ça m'intéresse beaucoup, pour dire la vérité, beaucoup, mais sans angoisse.
Vous avez dit, le jour où l'on représentera Claude à l'Opéra de Lyon, je serai sûrement un homme heureux. Je l'espère pour vous. En tout cas, vous prenez un risque, celui de découvrir l'envers du décor d'un domaine qui vous passionne. Vous savez qu'après cette production, votre perception ne sera plus jamais la même.
Je ne sais pas, je verrai. Ma perception de la musique, je ne crois pas que ça changera. La perception que j'aurai, ou l'idée que je me fais de l'opéra, probablement oui.
Selon vous, l'opéra est un art supérieur. Claude, c'est le nom de cet opéra, ou Claude, selon les régions d'où on vient. Une œuvre lyrique composée donc par Thierry Esquèche, écrite à partir d'une nouvelle de Victor Hugo qui s'intitule Claude Gueux, et d'un fait réel. Ce sera à partir du 27 mars et jusqu'au 14 avril à Lyon. On va revenir à cette création, Robert Badinter, mais pour le moment, on va essayer de vous connaître un petit peu mieux artistiquement. On ne peut pas commencer la musique parce que vous écoutez en ce moment, puisque c'est la musique de Claude qui a été enregistrée à deux pianos que vous écoutez. Nous allons donc écouter votre premier souvenir musical, La Belle Hélène d'Offenbach. C'était à l'Opéra de Lyon, en 42, printemps 42. Vous aviez 14 ans.
Oui, deux précisions. C'est le premier opéra que j'aurais
premier entendu. Souvenir
c'est le premier souvenir d'opéra.
De représentation.
Parce qu'il est évident qu'à cet âge-là, j'avais déjà connu des œuvres musicales. Je appartiens à un milieu petit bourgeois juif dans lequel apprendre à jouer d'un instrument, généralement piano ou violon, c'était une obligation. On ne concevait pas qu'il puisse en être autrement. Mais c'est à Lyon, et